Alors bonjour à tous, je vous propose de continuer dans notre série de l'évangile de Luc, et en particulier dans la série qu'on a sur les miracles en ce moment. Joël avait fait une introduction il y a 2 semaines un peu générale sur les miracles dans l'évangile et pourquoi les miracles plus généralement. On a eu ensuite Armand sur les résurrections, et puis je vous propose aujourd'hui de regarder, non pas un type spécifique de miracle, mais les miracles pour une personne spécifiquement, et cette personne c'est l'apôtre Pierre. Alors, dans l'apôtre Pierre, si mes comptes sont bons, on a... Attention. C'est le gros bouton, hein.
Pardon.
Si mes comptes sont bons, on a 8 miracles qui concernent Pierre, qui sont intimement liés à Pierre. Soit c'est des miracles qui sont pour Pierre directement ou dans son entourage très proche, et on va avoir par exemple la guérison de sa belle-mère, les 2 pêches miraculeuses, une au début et une à la toute fin de l'histoire dans les évangiles avec Pierre, Jésus et Pierre qui marchent sur l'eau, et puis la statère qui est retrouvée dans le poisson. Après on a un miracle qui est directement lié à cause de Pierre, et c'est le moment où il va couper l'oreille de Malchus dans le jardin. Et donc ici un 6e miracle. Et après, on a 2 miracles qui sont pour le cercle très restreint des 3 disciples, donc aussi intimement liés à Pierre, puisqu'il a fait partie de ceux qui ont vraiment vu la résurrection de la fille de Jaïrus et la transfiguration. Et comme on a plusieurs évangiles qui racontent certains de ces miracles, en fait, il faut que je... Ici, ou là-bas ? C'est bon. On a en fait 4 de ces épisodes, 4 miracles sur les 8 qui sont racontés dans l'évangile de Luc, 3 dans l'évangile de Matthieu, 2 dans l'évangile de Jean et 1 dans l'évangile de Marc. Donc en fait, si on prend à l'échelle de Pierre dans sa vie, sur tout ce qu'il a vécu, un peu ses temps forts dans sa vie, ses miracles, et ben c'est quand même l'évangile de Luc qui va en rapporter le plus. Peut-être aussi pour ça qu'on a choisi un peu ce thème, même s'il y a quand même une répartition assez... on voit des miracles de Pierre dans tous les évangiles, mais en particulier dans l'évangile de Luc. Alors, un homme qui a vécu tellement de choses fortes dans sa vie de foi, et en particulier de miracles de la part de Dieu et de Jésus dans sa vie, je me suis demandé qu'est-ce que quelqu'un qui a vécu tout ça aurait envie de nous laisser en termes de dernières paroles. S'il avait quelque chose à nous transmettre, à nous laisser, qu'est-ce que ça serait? Et en fait, quand on va dans 2 Pierre, on peut trouver les dernières paroles de Pierre qui sont adressées. C'est vraiment le dernier verset, 2 Pierre 3 au verset 18. Et là, on a ce verset où il nous dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire et maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc on a l'impression que c'est ça que Pierre a envie de nous laisser, un petit peu cette invitation à grandir dans la connaissance de Christ. Et j'ai l'impression qu'on peut voir d'une manière assez admirable comment chacun de ces miracles et chacune des étapes fortes que Pierre a vécues avec Jésus dans sa vie a contribué en fait à lui révéler des nouvelles facettes de Christ. Et donc, si on prend un petit peu le cheminement de sa vie, on va avoir les 8 miracles dont on a parlé, donc la guérison de la belle-mère, où il va vraiment rencontrer Jésus comme celui qui guérit, celui qui soigne, celui qui prend soin. On a la pêche miraculeuse, où ici, et on va le voir, Jésus est présenté comme le maître qui a autorité, et aussi celui qui est saint, duquel il va avoir envie de s'écarter. On a juste après la résurrection de la fille de Jaïrus, avec Jésus ici qui a vraiment toute l'autorité, y compris sur la mort. Quand Jésus marche sur l'eau, on a un Jésus qui est révélé à lui comme un sauveur qui va venir le tirer des eaux. On a la transfiguration où Jésus est révélé à ses yeux comme le fils bien-aimé du Père avec cette voix qui descend du ciel. On a la statère dans le poisson avec... une révélation ici peut-être de Jésus comme le fils héritier, puisqu'il va dire à Pierre, les fils n'ont pas besoin de payer l'impôt, mais pour éviter de les scandaliser, on va aller chercher l'impôt. Et puis tu peux continuer, voir un petit peu Malchus comme le Christ qui se soumet à la volonté du Père, puisque à ce moment-là, il va dire, est-ce que la coupe que le Père m'a donnée, je ne vais pas la boire? Et puis à ces miracles, on peut rajouter les autres temps forts avec la confession de foi, Pierre va avoir cette révélation qu'il est le fils du Dieu vivant, avec l'annonce du reniement, où on a un Jésus qui est révélé comme quelqu'un qui sait, qui est ce prophète d'une certaine manière, mais aussi comme celui qui est l'intercesseur, puisqu'il va prier pour Pierre et dire « ta foi ne défaillera pas ». Et puis ensuite, dans Gethsémané, un Jésus qui prie au lavage des pieds, un Jésus qui prend soin et qui est comme celui qui sert. Et donc j'avais l'impression de voir un petit peu dans toutes ces étapes, mais en particulier dans les miracles, comment ça a contribué à révéler aux yeux de Pierre cette personne incroyable et magnifique du Seigneur. Et puis chaque histoire, c'est un peu une facette différente, certains se recoupent bien sûr, mais on peut vraiment voir comment lui-même a grandi dans cette connaissance et dans cette grâce du Seigneur. Et puis c'est un petit peu ça qu'il veut peut-être nous transmettre. Alors, je vous propose du coup qu'on plonge dans trois de ces histoires, surtout la pêche miraculeuse et la rencontre avec Jésus. Ensuite, on va regarder un petit peu la transfiguration, et où là, on a plutôt une révélation de Jésus dans sa gloire. Et puis, je vais terminer très rapidement avec la dernière pêche miraculeuse, qui n'est pas dans Luc, qui est dans Jean, mais qui répond un petit peu. Et là, on a un peu un passage sur la restauration de Pierre de la part du Seigneur Jésus. Alors le premier miracle qu'on peut lire ensemble, c'est donc la pêche miraculeuse qui se trouve dans Luc au chapitre 5. Et puis je vous propose de lire au chapitre 5 à partir du verset 1. Verset 1 à 11. Or il arriva, comme la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Et il vit deux nacelles qui étaient au bord du lac. Or les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Et montant dans l'une des nacelles qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la nacelle. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Mène en pleine eau et lâchez vos filets pour la pêche. » Et Simon répondant lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je lâcherai le filet. » Ayant fait cela, ils enfermèrent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre nacelle de venir les aider, et ils vinrent et remplirent les deux nacelles de sorte qu'elles enfonçaient. Et Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poisson qu'il venait de faire. De même que Jacques et Jean aussi, fils de Zébédée, qui étaient associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, dorénavant tu prendras des hommes. » Et ayant mené les nacelles à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Donc c'est le premier, on va dire, miracle qui va concerner directement Pierre, et c'est vraiment le moment de la rencontre. Et une première chose qui me touche dans ce texte, c'est à quel point la rencontre entre Jésus et Pierre, c'est une rencontre qui est progressive. En fait, au chapitre d'avant, on a appris que Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre. Et donc ici, Pierre voit, ou Simon à l'époque, voit Jésus agir dans la vie d'un proche, dans la vie de quelqu'un de sa famille. Et puis on arrive sur ce texte où Jésus lui demande s'il peut prendre sa barque et aller en pleine eau. Et puis en fait, il se retrouve du coup dans l'eau et Jésus commence à parler. Et forcément qu'au moment où Jésus était en train d'enseigner aux foules, Pierre était dans la barque. Peut-être de dos, il entendait en fait Jésus s'adresser aux foules, mais il était là, tout près, il l'entendait de près. Et puis le shift un petit peu, c'est au moment où Jésus se retourne et passe vraiment de l'enseignement général à la question pour Pierre directement et l'interpellation à Pierre directement. Et donc on a un petit peu cette progression avec, dans la vie de Simon, un Jésus qui d'abord agit loin de lui, on va dire, ou dans son entourage, ensuite parle loin, puis il va lui parler à lui directement, et ensuite il va agir à lui directement dans sa vie. Et c'est cette rencontre-là, beaucoup plus personnelle, beaucoup, où il va vraiment se faire interpeller, qui va être la rencontre qui va changer la vie de Simon et qui va vraiment le mener à genoux. Et c'est un petit peu cette notion où, en fait, toute cette partie-là, on a d'une certaine manière peut-être une compréhension de qui est Jésus. Mais ici, on arrive à l'endroit où ça devient vraiment une rencontre et une connaissance de qui il est. Et on le dit souvent, mais la foi chrétienne, ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de relation. Je peux dire aujourd'hui que si je crois, ce n'est pas parce que j'ai été convaincu théoriquement par une philosophie à suivre, mais c'est parce que j'ai été touché. Et il y a un petit peu dans la vie de Pierre aussi, au moment de cette rencontre, cette progression, où Jésus s'approche de plus en plus de lui, jusqu'à l'interpeller personnellement dans cette barque, et puis vraiment créer la rencontre à ce moment-là. Et comment commence cette rencontre dans le texte? En fait, au moment où le texte commence, on apprend au verset 3 que Jésus monte dans une des nacelles de Simon. Et d'une certaine manière, cette rencontre, elle commence un petit peu par un besoin qui est exprimé par Jésus auprès de Pierre. Jésus va lui demander s'il peut utiliser sa barque pour aller enseigner. Sauf que Jésus n'avait pas besoin de barque, puisque Jésus sait marcher sur l'eau. Mais il va quand même exprimer ce besoin. Et puis Jésus n'avait pas non plus besoin de l'eau de la femme samaritaine au moment où il la rencontre au puits. Et pourtant, il commence avec cette demande « Donne-moi à boire » et il va exprimer ce besoin à la femme samaritaine. Et donc, il me semble peut-être qu'on peut voir ici à quel point c'est beau de voir à quel point Jésus, la manière dont Jésus se laisse aider avant d'apporter ce dont les personnes ont réellement besoin. Il va commencer, on va dire, par mettre en valeur Pierre, mettre en valeur la femme samaritaine, en leur demandant de l'aide, en se laissant aider. Alors que voilà, s'il y a bien une personne qui n'avait pas besoin d'aide et qui avait tout à apporter aux autres, en fait, c'est Jésus. Et peut-être que c'est un encouragement pour nous aussi à ne pas oublier d'apprendre à se laisser aider dans les relations qu'on a avec les gens, dans l'évangélisation, de ne pas arriver forcément avec ses gros sabots et de dire « voilà tout ce dont tu as besoin, je te l'apporte », mais d'apprendre, comme le Seigneur l'a fait, à se laisser aider, à être dépendant, pour créer ce lien, mettre en valeur et puis ensuite pouvoir vraiment tisser cette relation qui va permettre la rencontre. Et c'est une fois qu'ils sont dans la barque que Jésus va pouvoir interpeller Pierre. Et donc une rencontre qui est progressive, une rencontre qui part un peu d'un besoin exprimé par le Seigneur se laisse aider. Et puis c'est une rencontre de l'autorité et de la puissance de la parole de Jésus. Au moment où Jésus a terminé son sermon, au verset 4, il dit à Simon, « Mène en pleine eau et lâchez vos filets pour la pêche. » Et puis là, dans la réponse de Simon, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai le filet. » J'ai l'impression de voir d'un côté sa volonté à faire confiance au Seigneur, peut-être aussi parce qu'après l'avoir entendu parler aux foules, il a cette capacité à vouloir lui faire confiance. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression de voir que c'est vraiment important pour Pierre de lui montrer qu'à ses yeux, ce n'est pas possible. De vraiment établir ce fait que, ils ont essayé toute la nuit, lui est professionnel, il est pêcheur, ça n'a pas marché. Et donc, il ne faut pas que... un peu cette tension entre « je veux t'obéir », peut-être par respect, peut-être par foi, mais d'un autre côté, je vais quand même juste te dire que je ne pense pas que ça va marcher. Et c'est important, à mon sens, que Pierre l'ait exprimé, parce que c'est ce qui fait la différence avec une journée de pêche normale. On n'est pas dans une situation où Pierre hésitait peut-être à encore aller jeter son filet là-bas, et puis Jésus lui a donné son coup de pouce, alors il se dit « bon, allez, on y va ». Non, non, non. On est dans une situation où Pierre a vraiment constaté l'impossibilité et l'impasse. Et le fait de l'exprimer, c'est ce qui va aussi donner toute la puissance au miracle. C'est qu'une fois que l'impasse est constatée, une fois que Pierre se retrouve devant l'évidence de l'impasse, on a vraiment l'évidence du miracle. Et c'est un petit peu la même chose avec Élie, au moment où il se retrouve devant les prophètes de Baal, où il va venir mettre de l'eau sur l'autel jusqu'à ce que ça déborde. Il y a un peu cette notion où c'était évident aux yeux de tout le monde que ça ne marche pas, et c'est là que le miracle se produit. Et comme Marthe et Marie, qui expriment à Jésus le fait qu'il est arrivé trop tard, en fait, Jésus aurait encore pu guérir. Elles avaient cette foi-là, que Jésus guérissait les malades. Mais au moment où il arrive trop tard, en fait, c'est juste trop tard. Et donc, devant cette impasse, cette impossibilité qui est exprimée, qui est la sentence tombe, en fait, c'est là que le miracle va venir agir. Ça m'encourage en lisant ce texte de se souvenir que Dieu n'a pas peur de nos impasses, que Dieu n'a pas... dans ce texte, Dieu ne laisse pas d'ambiguïté, c'est vraiment un miracle, puisque le professionnel a constaté que ça ne marchait pas, mais Dieu n'a pas peur de cette impasse-là. Quand même tout semble dire que ça ne fonctionne pas, en fait, Jésus fait ce miracle. Et puis, sur ta parole, je jetterai mes filets, c'est aussi certainement un encouragement à avancer en ayant cette parole de Dieu comme fondement clair, comme quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Peut-être cette question pour nous, quelle est la valeur de cette parole pour moi concrètement, pour ma famille, pour mon travail, pour mon église? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui où je peux dire sur ta parole, même si je ne le comprends pas, je veux le faire? Je veux avancer dans cette direction parce que je pense que c'est ce que tu me demandes dans mon travail, dans ma famille ou nous, dans notre église. Et puis enfin, c'est une rencontre qui produit en Pierre la crainte et la repentance en particulier. Il va vraiment réagir tout de suite en disant « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». C'est un petit peu penser à Ésaïe aussi qui devant la gloire de Dieu, va vraiment dire « Je ne peux pas, je suis un homme aux lèvres impures ». Alors voilà, est-ce que c'est une crainte de souiller le Seigneur, puisqu'il voit sa sainteté, il voit sa grandeur, il voit qu'il vient de Dieu? Ou est-ce que c'est une crainte de mourir, puisqu'il voit sa sainteté aussi? Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, je pense qu'on peut aussi voir à quel point la rencontre avec le Seigneur crée la repentance, amène à genoux, et puis amène à cette prise de conscience que je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Et Jésus va lui laisser cette parole, ne crains pas, désormais tu pécheras des hommes. Donc, un premier miracle, qui est vraiment le miracle de cette rencontre, c'est une rencontre qui est progressive, petit à petit le Seigneur s'approche jusqu'à l'interpeller. Pendant tout un temps, il n'avait pas besoin de se positionner par rapport à Jésus, et puis là, il va vraiment avoir besoin de se positionner, d'être confronté à sa parole, qui part aussi d'un besoin qui est exprimé par le Seigneur, qui se laisse aider pour créer la rencontre. Une rencontre où il voit l'autorité de sa parole et le fait que devant son impasse, Jésus va vraiment faire le miracle. Et puis enfin, une rencontre qui produit la repentance. Le deuxième miracle qu'on peut regarder ensemble, c'est celui de la transfiguration. Donc c'est un peu plus tard, c'est dans le chapitre 9 de l'évangile de Luc, au verset 28 à 36. Donc Luc 9 au verset 28. Il arriva environ 8 jours après ces paroles qu'il prit avec lui Pierre et Jean et Jacques et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici deux hommes qui étaient Moïse et Élie parler avec lui, lesquels apparaissaient en gloire, et parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil. Et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. Et il arriva comme ils se séparaient de lui que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, et faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, sachant ce qu'il disait. Et comme il disait ces choses, une nuée vint et les couvrit. Et ils eurent peur, comme ils entraient dans la nuée. Et il eut une voix de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. »
Et la voix s'étant fait entendre, Jésus se trouva seul. Et ils se turent et ne rapportèrent en ces jours-là à personne rien de ce qu'ils avaient vu.
Donc deuxième scène toute différente, qui est plutôt une scène de révélation de la gloire de Dieu, de la gloire de Jésus, mais où Pierre va continuer de grandir dans cette connaissance de qui est Jésus, et découvrir des nouvelles facettes de qui il est. Et quand, en lisant un petit peu le passage de la Transfiguration, j'ai l'impression que c'est quand même un passage d'une immense profondeur dont, honnêtement, moi, je ne saisis absolument pas le fond. Je ne comprends pas exactement pourquoi, comment. Et sûrement que ce moment a été pour Jésus un moment extrêmement, peut-être aussi d'une grande consolation, le fait de parler de sa mort juste avant que ça arrive, d'une communion, d'une intimité. Donc il y a plein de choses que je pense, que en tout cas je ne saisis pas, mais qui sont juste impressionnantes en fait à voir. Mais il y a certaines choses qui me parlent quand même dans cette scène, et en particulier le fait que j'ai l'impression qu'on peut voir dans cette scène de la Transfiguration un petit peu une image du ciel, comme un peu une capture du ciel, puisque un petit peu cette image de tous les chrétiens qui entourent Jésus dans la gloire du ciel. À la fois des chrétiens vivants qui auront été enlevés, un petit peu à l'image de Élie qui n'est pas vraiment mort et qui est juste monté au ciel, et à la fois tous les chrétiens morts qui auront été ressuscités, un peu à l'image de Moïse peut-être, qui lui voilà, est mort mais bien vivant au ciel. Et de voir du coup que Jésus est vraiment le centre de ce tableau un peu céleste, le centre de notre adoration, le centre de toute l'attention, entouré un peu de part et d'autre par les croyants. Mais en plus de ça, on a aussi le fait qu'ils s'entretiennent de sa mort. Et donc il y a peut-être aussi une nouvelle chose qu'on peut voir ici, c'est de voir à quel point Élie, c'est un petit peu un symbole des prophètes. Et Moïse, un peu un symbole de la loi. Et on sait dans le jardin, sur la route d'Emmaüs, à la fin de Luc, que Jésus va vraiment ouvrir les Écritures aux disciples d'Emmaüs et leur expliquer comment, dans les prophètes et la loi, en commençant par Moïse et par les prophètes, eh ben, tout va venir parler de l'œuvre de Christ. Et donc peut-être qu'on a ici aussi une image de comment toute la Bible, à la fois Élie, à la fois Moïse, à la fois les prophètes, à la fois l'Ancien Testament, la loi, viennent parler en filigrane de cette œuvre, de cette mort, viennent annoncer en fait la mort de Jésus. Et on sait en même temps par l'Apocalypse que le sujet de l'œuvre continuera même au ciel d'être un thème, d'être l'objet de notre adoration, puisque c'est... gloire à l'agneau immolé. Donc peut-être que pour Pierre, on a vraiment dans ce passage la révélation un peu d'un Christ qui est au centre dans la gloire, qui sera au centre au ciel et dont l'objet de l'adoration, c'est son œuvre, c'est son sacrifice à la croix. Mais on a aussi un Christ qui est révélé à ses yeux comme le Fils bien-aimé du Père, puisqu'on a cette voix qui arrive juste à la fin, au verset 35, il y eut une voix venant de la nuée disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et on en a d'ailleurs reparlé ce matin. Et cette voix qui descend du ciel, en fait, on a un autre passage dans la Bible où elle apparaît aussi, c'est au moment du baptême, au moment où Jésus sort de l'eau, on a le ciel qui s'ouvre, l'esprit qui descend sous forme d'une colombe, et cette voix du Père qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et quand on met un peu ces deux passages en perspective, on a comme l'impression que cette voix arrive dans ce passage au moment où Pierre commençait à confondre Jésus avec Élie et Moïse. C'est-à-dire qu'à ses yeux, ces trois hommes glorieux, incroyables, alors on va venir mettre une tente pour que tout le monde puisse être là. Et c'est comme si à ce moment-là, il fallait que Dieu clarifie en disant non, celui-ci est différent. Oui, ils sont glorieux tous les trois, oui, c'est peut-être des grands hommes. Mais celui-là, c'est mon fils bien-aimé, il est hors de question qu'on le confonde avec les prophètes. Et quand on pense au baptême, en fait, là où tout le monde aurait pu voir un Jésus qui, comme tous les autres, venait se repentir et être baptisé, en fait, c'est comme si la voix de nouveau de Dieu, elle venait clarifier, elle venait dire non, celui-ci est mon fils, bien-aimé, il n'est pas comme tous les pécheurs qui viennent pour se repentir. Un évêque que j'avais entendu un jour disait Jésus n'est pas tant venu s'immerger dans l'eau que dans la foule et dans le peuple à ce moment-là, puisque c'est là qu'il commence, on va dire, son œuvre. Et donc, on a l'impression que cette voix, elle vient, en plus d'attester de l'amour de Dieu et de la place de fils de Jésus, elle vient clarifier, elle vient vraiment faire en sorte qu'on ne confonde pas Jésus avec, d'un côté, les pécheurs, et d'un côté, Élie et Moïse. Et alors, on pense à la croix, à ce moment où Jésus s'est retrouvé au milieu de deux brigands. Et en fait, à la croix, les gens ont confondu aussi Jésus. Les gens qui passent se sont moqués, les gens qui passent se sont dit « celui-ci doit être un brigand comme tous les autres ». Et en fait, on aurait voulu que cette voix vienne en plus une troisième fois pour dire « non, celui-ci est différent, il est innocent, en fait, il est sur cette croix pour payer vos péchés, payer pour ceux qui l'accusent ». Mais on l'a redit ce matin, en fait, à la croix, le ciel est resté muet. Et je trouve ça m'a beaucoup touché un peu cette pensée de voir ces deux fois la voix arrive à la croix. Dieu le Père accepte qu'on se méprenne en fait sur qui est Jésus, accepte qu'on le prenne pour un brigand alors qu'il était le fils bien-aimé du Père. Et puis cette douleur de la séparation à la fois pour Jésus mais pour le Père aussi, qui cette fois-ci n'est pas intervenu pour clarifier la situation. Donc, aux yeux de Pierre, qui grandit dans cette révélation de qui est Christ, on a un Christ qui est au centre dans la gloire, un peu cette image du ciel peut-être, et puis un Christ qui est le Fils bien-aimé du Père. Et la dernière pensée sur cette... un point aussi. C'est une voix dont Pierre se souviendra toute sa vie, la voix de la transfiguration. On a dans 2 Pierre, au chapitre 2, une évocation de ce passage, au verset 17. « Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui fut adressé par la gloire magnifique. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne, et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme. » Une telle voix, on a l'impression quand il dit telle, il l'entend encore, comme si c'était gravé vraiment dans sa mémoire. Une voix dont il se souviendra toute sa vie. Et puis encore juste un élément, en fait, cette voix sur le fils bien-aimé, elle arrive aussi juste après que Jésus leur ait demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Et puis Pierre avait eu cette révélation de dire que le Christ, le Fils du Dieu vivant, puis là c'est confirmé par le Père lui-même. Privilège de Pierre de voir Jésus dans la gloire après avoir eu cette révélation. Un mot pour terminer sur la deuxième pêche miraculeuse, qui est cette fois-ci dans l'évangile de Jean, mais qui permet un petit peu de boucler. On a la rencontre au début, on a ici la révélation de Jésus dans sa gloire. Et puis cette deuxième pêche miraculeuse, pour Pierre, ce sera l'occasion de la restauration. Et ça, c'est quelque chose qu'on lit dans Jean au chapitre 21, à partir du verset 3. « Simon Pierre leur dit, je m'en vais pêcher. » Ils lui disent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la nacelle, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et le matin, venant déjà, Jésus se tint sur le rivage. Les disciples toutefois ne savaient pas que ce fut Jésus. Jésus donc leur dit, « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet au côté droit de la nacelle et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la multitude des poissons. Ce disciple donc que Jésus aimait, donc Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Simon Pierre, donc, ayant entendu que c'était le Seigneur, ceignit sa robe de dessus, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent dans la petite nacelle, car
car ils n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, traînant le filet de poisson. Quand ils furent donc descendus à terre, ils voient là de la braise et du poisson mis dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta et tira le filet à terre, plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet n'avait pas été déchiré par rapport à la première fois. Jésus leur dit « Venez, dînez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» Sachant que c'était le Seigneur, Jésus vient et prend le pain et leur donne, et de même le poisson. Ce fut là la troisième fois déjà que Jésus fut manifesté aux disciples, après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Donc ici, on est sur, après la résurrection, sur la toute fin de du passage de Pierre, et on a ce moment où Jésus vient les retrouver dans leur quotidien. Alors on a l'impression que les disciples ne savent plus quoi faire, qu'il n'y a plus d'objectif, plus de but, et en fait ils retournent du coup par défaut à ce qu'ils faisaient avant, le fait d'aller pêcher. Et c'est là que Jésus va les retrouver. Et à nouveau, il commence avec cette question, en étant sur le bord de la rive, enfant, « Avez-vous quelque chose à manger ? Est-ce que vous auriez quelque chose à m'apporter ?» Et puis ensuite, on va arriver du coup sur cet échange entre Jésus et Pierre, où Jésus devient vraiment le restaurateur de Pierre après le reniement. Et il lui demande, dans le passage juste après, cette pêche miraculeuse, il va lui demander trois fois « M'aimes-tu ?» un peu comme pour faire écho aux trois reniements de Pierre lui-même. Et c'est Étienne Lermeneau, qui était venu à Antony il y a quelques années, je crois, qui avait parlé de ce passage et de cette restauration. Et je voulais juste vous redonner un peu une pensée sur ces trois interpellations de Jésus qui m'avaient beaucoup touché à l'époque. Il dit, voilà, la première question, c'est pour interpeller Pierre devant les autres disciples. Parce que Pierre s'est prétendu meilleur qu'eux et les a entraînés dans son orgueil. M'aimes-tu plus en référence à sa promesse que si tout le monde l'abandonnait, lui ne le ferait pas. Et puis il citait cette phrase, qui aime réellement n'aime pas plus qu'un autre, mais aime seulement. La deuxième question, pour vérifier que l'apôtre ne garde pas au fond de lui une trop haute opinion de lui-même, qui aime réellement, n'aime jamais parfaitement, mais apprend à aimer, il vient reposer à Pierre la question « M'aimes-tu ?» Et la troisième question, pour se mettre au niveau de Pierre, il ne s'agit plus de l'amour divin agapé, mais de l'amour humain philéo, comme pour lui dire « Simon, mon amour plus modeste, je l'accepte, je n'en demande pas plus, mais reviens une dernière fois sur ton reniement pour effacer ta trahison. » Donc Jésus, au moment de cette deuxième pêche miraculeuse, comme le restaurateur de Pierre. Et puis enfin, c'est aussi lui qui va lui redonner une mission, un but. Tu peux passer la slide d'après. Ah non, je crois que j'ai... Ah oui, voilà. Jésus comme le maître qui va reprendre autorité, lui redemander de le suivre, et puis lui redonner cette mission en disant « Paie mes brebis, prends soin de mes brebis. » Et c'est une mission qui fait référence à l'annonce quand Jésus avait dit « Simon, j'ai prié pour toi, pour que quand tu seras relevé, tu fortifies tes frères. » Cette mission, c'est un peu à ce moment-là qu'elle prend tout son sens, puisque Pierre se relève du reniement, et sa nouvelle mission, le but que va lui donner le maître, c'est de venir soutenir, restaurer, paître les brebis et fortifier, on va dire, les frères et sœurs de l'Église. Et il finit ce passage avec le verset 23. « Si je veux qu'il demeure, en parlant de Jean, jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Donc voilà, on peut repenser un peu à ces dernières paroles de Pierre, avec lesquelles on a commencé. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On a l'impression que tout au long de ces passages, et en particulier tout au long de ces miracles, Pierre a justement grandi dans cette connaissance de qui était Jésus. Et Jésus lui a aussi laissé des paroles spécifiques à certains moments clés de sa vie. Et si on reprend un peu les paroles qu'on a évoquées, on avait au début dans la barque la parole « ne crains pas », après qu'il ait dit « je suis un homme pécheur ». On avait juste avant la transfiguration cette question « Qui dis-tu que je suis ?» On avait juste avant le reniement, et on vient de l'évoquer, le fait que Jésus a prié pour lui, moi j'ai prié pour toi, et à la fin sur la restauration, suis-moi. Et ce n'est pas toutes les paroles que Jésus a évoquées à Pierre, mais c'est les quatre qu'on a évoquées, et c'est aussi, je pense, des super belles paroles à méditer pour nous. Ne crains pas, qui dis-tu que je suis? C'est une question que chacun doit se poser. Moi, j'ai prié pour toi, et puis toi, suis-moi. Nous m'avons ici.